se retrouvera dans les livres d'histoire. Déclaration de la ministre américaine de l'énergie qui a annoncé hier avec des scientifiques d'un laboratoire californien une avancée qui pourrait révolutionner la production d'énergie dans les prochaines décennies. Ces scientifiques sont parvenus pour la première fois à produire davantage d'énergie que celle utilisée pour provoquer une fusion nucléaire.
C'est la première fois que cela a été réalisé dans un laboratoire, où que ce soit dans le monde. C'est l'un des exploits scientifiques les plus impressionnants du 21e siècle. Ce tournant nous rapproche considérablement de la possibilité d'une énergie de fusion abondante, sans carbone, qui alimenterait toute notre société. Donc aujourd'hui, nous disons au monde que l'Amérique a réalisé une formidable percée scientifique.
Alors, en quoi cette percée scientifique majeure va-t-elle mener à la solution pour une énergie propre? On va en parler avec l'un des grands spécialistes belges de la fusion nucléaire, Joseph Ongena, directeur de recherche à l'École royale militaire. Bonjour, Joseph Ongena.
Bonjour, monsieur.
Alors, d'abord, pour bien comprendre, c'est quoi la fusion nucléaire? En quoi est-ce que c'est différent de la fission qui fournit l'énergie nucléaire que l'on connaît aujourd'hui? Fusion, fission, expliquez-nous la différence.
La fission consiste en brisant un grand noyau en des petits noyaux. La fusion est juste la réaction inverse. On combine des éléments légers vers un élément plus lourd et aussi dans cette réaction, on gagne beaucoup d'énergie.
La fusion, c'est ce qui est à l'œuvre dans les étoiles, dans le Soleil par exemple. Donc ce n'est possible qu'à une très haute température, c'est ça la difficulté du processus ?
Exactement. C'est donc la réaction de fusion nécessite quelques dizaines de millions de degrés, dépendant du procès. Et dans cette réaction, ils ont produit 5 millions de degrés pour arriver à la réaction de fusion.
Alors, en quoi est-ce que l'annonce du ministère américain que l'on vient d'entendre est historique, Joseph Ongena? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce laboratoire californien?
Oui, c'est une très grande percée parce que donc pour la première fois dans cette filière de la fusion, de la recherche de fusion nucléaire, ils ont obtenu plus d'énergie de la réaction que était nécessaire pour entamer la réaction dans leur expérience. Donc ça, c'est un premier pas très important parce que maintenant on peut commencer à réfléchir à des systèmes plus compliqués ou plus avancés qui donnent beaucoup plus d'énergie. Qu'on met dedans.
Voilà, il parle d'un gain net de 120% d'énergie, c'est quand même pas énorme. Il en faudrait combien de gains net d'énergie pour pouvoir se dire que cette fusion nucléaire pourrait donner de l'énergie au monde, aux habitants, aux entreprises, aux villes, etc.
Eh bien oui, donc ce sont des estimations naturellement, mais donc il faut un gain entre 30 et 50 fois pour être rentable. Donc il y a encore un pas à faire, mais ce pas fait cette semaine est très important, car c'est la première fois qu'on voit qu'on peut gagner. Maintenant, il faut optimiser le processus et voir qu'est-ce que donne la recherche dans les années qui suivent naturellement.
Et ça va prendre combien de temps? Est-ce qu'on peut l'estimer aujourd'hui, Joseph Ongena, avant une production industrielle d'énergie à partir de fusion nucléaire?
Ben oui, ça c'est très difficile à dire. Le futur était, donc personne ne le sait, mais en tout cas, il y a beaucoup de travail à faire. Par exemple, si on veut utiliser les petites sphères qu'ils ont comprimées la semaine passée, il en faut plus ou moins 1000 sphères par seconde pour produire la même quantité d'énergie que par exemple Tiange 2 ou 3. Donc là, c'est pas si facile. Chaque sphère doit être bien positionnée au centre de tous les lasers qui compriment à une précision de submillimètre. Alors techniquement c'est peut-être possible, mais il faut bien bien penser à avoir un système qui le fait, bien penser à un système qui est stable sous ces explosions, 1000 fois par seconde, pendant des heures, pendant des jours. Et puis, il faut peut-être augmenter le rendement du processus. Ça nécessiterait donc des lasers beaucoup plus puissants que maintenant. Donc voilà, tout ça prend beaucoup de temps. Ce sont des systèmes complexes, quelques dizaines d'années, je dirais au moins.
Vous parliez de laser, ça c'est la technique américaine, parce qu'il faut aussi préciser, Joseph Onkena, qu'il y a deux types de fusion nucléaire. Il y a celle que les Américains sont parvenus à faire avec des lasers, et puis il y a celle qu'on étudie en Europe aujourd'hui.
Exactement, exactement. Donc il y a deux filières. Il y a donc la filière américaine qui consiste en comprimant donc petites sphères. Ce sont des sphères de 1 mm qu'on illumine avec, dans ce cas-ci, 192 rayons de laser. Alors le rayon de ces sphères devient un millionième de mètre. Donc il est comprimé 1000 fois en diamètre. Dans l'autre filière, donc c'est la fusion magnétique. C'est ce qu'on étudie dans notre labo à l'école militaire. Donc c'est une production continue dans un gaz très chaud, encore plus chaud que dans la filière donc américaine. Donc nous, on doit arriver à des températures de 150 millions de degrés, donc ça veut dire 10 fois plus qu'au centre du soleil, mais c'est possible. On le fait chaque jour à Culham, pas loin d'Oxford en Angleterre, et là on tient donc pendant des minutes, donc des réactions à ces températures. Ce processus produit en continu donc de l'énergie, donc c'est pas explosif comme dans le système américain, mais continu. Cette filière est assez proche d'un réacteur, parce que donc elle est en train de construire une machine qui s'appelle ITER à Cadarache en France, qui produira, espérons donc dans 15 ans, 300 000 fois donc l'énergie produite par cette réaction américaine.
Donc dans 15 ans, l'Europe pourra produire 300 000 fois ce qui vient d'être réalisé la semaine passée aux États-Unis. On est donc un peu plus loin que les Américains finalement dans la recherche sur la fusion nucléaire. Encore un mot évidemment, parce que c'est la question qu'on se pose tous ce matin sur l'avenir de cette énergie. En quoi est-ce que c'est une solution finalement pour fournir de l'énergie non polluante? Il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de pollution avec la fusion nucléaire?
Il y a toujours des déchets. Chaque système a ses petits problèmes. Donc, mais dans ce cas-ci, c'est quand même, on améliore un énorme facteur la pollution, parce que les cendres de réaction, c'est le gaz hélium. C'est un gaz noble. Donc, ça veut dire que ces gaz ne se combinent pas avec des autres atomes. Il est paresseux. Hein. Donc, il n'y a pas des acides dans l'air. Il n'y a pas donc l'attaque de la couche d'ozone, c'est pas un gaz donc à effet de serre, etc. Donc c'est fantastique comme cendre de la réaction. C'est même plus, c'est un produit industriel très important qui est très rare sur Terre. Donc on produit quelque chose dont on a besoin. Voilà, donc ça c'est donc un très bon point. Puis le produit pour la réaction, c'est en principe l'hydrogène. Il est abondant, et pour un Européen donc qui vit, laissons dire, 80 ans, et pour produire toute son électricité, on a besoin de 15 grammes. 15 grammes, je répète, 15 grammes, c'est pas beaucoup. Si on regarde donc les quantités dans la mer, c'est énorme. Et donc là, on aura donc une sous-énergie pour des milliers, peut-être pour des centaines de milliers d'années à suivre.
Voilà, il faudrait 15 grammes par personne pour la fournir en énergie grâce à cette fusion nucléaire. On l'a compris, c'est quasi inépuisable comme énergie, mais on a compris aussi qu'il faudra encore des décennies avant que cela soit notre source d'énergie. Merci Joseph Onkena, vous êtes l'un des éminents spécialistes de cette fusion nucléaire en Belgique. Vous êtes directeur de recherche au laboratoire de physique des plasmas à l'École royale militaire. 7h23.